Eh bien voilà, bonjour à tous. Lorsqu'on m'a dit qu'un jour je rendrais témoignage pour faire partie de cette assemblée, la première question qui m'est montée à la tête, c'est la suivante. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Mon existence est tellement banale. À plus de 60 ans, je pourrais presque dire que ma vie a été, jusqu'à présent, un long fleuve tranquille. Ah ben, comme tout le monde, hein, il y a bien eu quelques chagrins, quelques accros, quelques larmes, quelques douleurs, mais qui n'en a pas. Mon témoignage est bien banal. Je n'ai tué personne, du moins en acte, par parole. Par contre, j'en ai flingué quelques-uns. Mais, à vrai dire, bah, j'ai quand même quelques regrets. Je n'ai pas voulu faire ça. Alors voilà, même si mon témoignage est banal, il n'en reste pas moins que c'est mon témoignage. Et je ne vais pas, après tout, inventer des fables pour me rendre intéressant. Je suis né dans une famille chrétienne. À quelques années près, pour peu, je naissais dans une église protestante, dans un temple protestant. Alors que j'étais tout petit, mes parents ont été concierges d'un temple protestant. Tout comme Obélix, je suis tombé dans la marmite tout jeune. On peut dire que j'ai usé mes fonds de pantalon sur les bancs des églises. Ma maman était allemande et elle avait été élevée dans la foi luthérienne la plus stricte, la plus pure. Et c'est cette éducation chrétienne que j'ai reçue. D'aussi loin que je peux me souvenir, il y a toujours eu une Bible sur la table de la salle à manger. Et souvent, ma maman était penchée dessus. Tous les dimanches, nous allions en famille assister au culte. Nous n'avions que quelques escaliers à descendre. Aux yeux de Monsieur Tout-le-Monde, on aurait pu dire que j'étais chrétien, puisque j'allais au culte et que je suivais les cours de religion protestante à l'école. Mais comme chacun le sait, on ne naît pas chrétien, on le devient par l'acceptation de Jésus comme son sauveur, comme de son Seigneur, et c'est une décision personnelle. C'est en 1975, lors d'une convention organisée par des Américains, Eurofest, avec Billy Graham, que je me suis converti. J'ai ressenti le besoin de faire un pas décisif dans ma vie de chrétien. J'ai ressenti le besoin de dire au Seigneur que j'étais son enfant et que... Je lui étais reconnaissant pour tant d'amour et tant de sacrifices. Et j'ai dit que ma vie devait changer à partir de ce moment-là. Dans le livre de Deutéronome, Dieu dit « Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu. » J'ai donc choisi la vie. Nous fréquentions, mon frère aîné et moi-même, nous fréquentions la communauté de Oui. Et c'est au cours de cette année que je suis passé par les eaux du baptême. En 1976, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme. C'était au cours d'une campagne d'évangélisation à Anu. En décembre 1977, il y a 40 ans, nous nous sommes mariés. Nous sommes Marie-France et moi, parents de deux merveilleuses jeunes filles. Oui. Oui, elles sont jeunes. Dans mon cœur, elles restent jeunes. Anne-Catherine, que vous connaissez tous, hein, qui vient dans cette communauté, et Caroline, la plus jeune, qui, elle, ne vient pas encore. Hein, nous sommes grands-parents de 4 petits-enfants. Je vous parlais d'un long fleuve tranquille. J'avais du travail, ma femme aussi. Nous allions le plus souvent possible le dimanche matin au culte. Tout se passait comme dans le meilleur des mondes. Ensuite, nous avons connu, du moins en ce qui me concerne, nous avons connu une perte d'appétit. Le Seigneur était bien dans ma vie de tous les jours, une petite prière par-ci, hein, avant de s'endormir, et une petite lecture de la Bible par-là. Mon devoir religieux était accompli. Ma relation avec Dieu était au strict minimum. Dieu avait offert son Fils unique en sacrifice pour moi, et moi je lui rendais un culte fade. Sans vraie reconnaissance, en contrepartie de l'amour de Dieu, j'offrais à Dieu ce que l'on aurait pu appeler la vie d'un homme de bien. Je me conduisais bien, je me conduis toujours bien. Je me conduisais bien, je ne fumais pas, je ne buvais pas. J'étais et je suis toujours l'homme d'une seule femme. En somme, pour les gens qui me regardent vivre, j'étais un homme bien. Mais en réalité, j'étais devenu, sans m'en rendre compte, petit à petit, j'étais devenu un chrétien tiède. Heureusement pour nous, quelques années plus tard, nous avons repris le chemin de l'Église. Nous sommes restés pendant 15 ans dans la communauté de Serein. Le pasteur d'alors était Georges Quenon. Je peux dire que nous avons connu là-bas quelques années bénies. Lorsque ce pasteur a quitté son assemblée, Nous avons fait de même. Nous sommes allés soutenir l'église de Blegny, c'est l'église sœur. Hein. C'est une église qui avait été créée, on va dire, par Sorin. Nous sommes restés 6 ans en compagnie du pasteur Florent Spitz. Cette assemblée était une petite assemblée de 25 à 30 personnes. Ben, nous y avons fait notre nid. Mais seulement voilà, au cours de l'année 2015, un article est paru dans la presse belge. Plusieurs journaux en ont parlé, les grands journaux en tout cas en ont parlé. Les pubs, l'Église protestante unie de Belgique, dont faisait partie notre communauté, avait décidé d'accepter non seulement des pasteurs homosexuels, mais en plus, ils avaient accepté que ces pasteurs homosexuels se marient. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter, c'était au-dessus de mes forces. Alors j'ai donné ma démission en tant que membre de l'EPUB. En septembre 2015, j'ai quitté cette assemblée. Alors malgré mon départ, je voudrais quand même dire ceci, c'est que nous sommes restés en très bon contact avec le pasteur Florent Spitz et avec les membres de l'assemblée. Hein, nous ne nous sommes pas quittés fâchés. La semaine suivante mon départ, nous sommes venus directement à Glun. Alors pourquoi avoir choisi Glun ? Eh bien, nous avons d'abord regardé sur Internet. Nous avons regardé sur Internet quelles étaient les églises protestantes qu'il y avait dans la région de Liège. J'avais bien évidemment éliminé toutes les églises de l'EPUB. Et après, nous sommes allés voir sur les sites. Et je dois dire que nous n'avons pas fait de grandes recherches. Nous sommes tombés à peu près tout de suite sur le site de Glun. Et à ce sujet, ben, je tiens à remercier Jean-François. Hein, c'est un peu grâce à lui, ou alors à cause de lui, que nous sommes ici, hein, puisque c'est grâce au site que nous avons pu faire plus ample connaissance avec le pasteur, puisque sur ce site, il y avait des prédications. Et Marie-France et moi, nous avons, pendant plusieurs soirées, nous avons décidé d'écouter les prédications du pasteur de l'église de Glun. Alors ce pasteur, ben, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il a un fort accent canadien. Et il paraît qu'à la longue, on s'habitue. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Moi, ça fait 2 ans que je suis là, je ne suis pas encore habitué. Alors, je dois dire tout de suite que j'ai été conquis, moi, par le contenu de ses prêches. Ce pasteur m'avait conquis. Il ne mâchait pas ses mots. J'étais en parfaite adéquation, en parfait accord avec ce qu'il disait. Je voudrais ajouter ceci. Nous ne nous en rendons pas toujours bien compte, mais il faut aller dans d'autres églises pour se rendre compte que nous avons de la chance d'avoir Jacques avec nous. Alors, je me suis dit, ben, nous allons essayer alors, hein. On va y aller. Peut-être que cette première visite sera la bonne. Lorsque pour la première fois nous sommes entrés dans cette église de Glun, nous avons été surpris, nous avons été très surpris par l'accueil qui nous avait été réservé. Il y avait à l'entrée 3-4 personnes avec un sourire aux lèvres et nous avons reçu un accueil merveilleux. Dommage que dans toutes les églises protestantes, ce n'est pas un accueil comme ça qu'il y a à l'entrée. À l'issue de culte, nous avons été invités à prendre une tasse de café. Nous avons pu faire connaissance avec quelques membres de l'Assemblée. Moi, je me souviens plus particulièrement d'une personne qui m'a demandé comment je m'appelais. La semaine suivante, quelle n'a pas été ma surprise d'être accueilli par un « Bonjour, Guy, comment vas-tu ? » Et c'est Ernest qui m'a accueilli comme ça. Et je dois dire que ça fait chaud au cœur d'être reconnu par son prénom. Ce n'est pas toujours facile, hein, Jacques, ses prénoms, c'est Marie-France. Mais c'était quand même bien agréable d'être accueilli par Ernest, par un « Bonjour, Guy, comment vas-tu ? » Eh bien, depuis lors, nous sommes avec vous. Je me suis longtemps posé la question, pourquoi devenir membre d'une église ? Pourquoi devenir membre de l'église de Glun ? Au départ, je me suis dit, à quoi bon ? À quoi bon ? Je fais déjà partie de l'Église universelle, le corps de Christ. Est-ce que cela n'est pas suffisant ? Au bout d'un certain temps, et avec l'aide de Jacques et d'Édouard, parce que j'en ai beaucoup parlé avec eux, j'ai beaucoup discuté, je les remercie pour leur patience, au bout d'un certain temps, je suis arrivé à cette conclusion. Pour pouvoir servir le Seigneur, je devais faire partie officiellement de cette assemblée de Glun, de cette famille de Glun. Et c'est pour cette raison qu'après 2 ans de réflexion, oui, je sais, je suis lent, mais c'est comme ça, eh bien nous avons décidé de faire notre demande pour devenir membre. Nous désirons rester parmi vous, je crois que ça s'est vu, hein. Ce ne sont pas que des mots, vous l'avez certainement remarqué, nous désirons rester parmi vous. Il n'y a pas de meilleur endroit que la communauté locale pour servir le Seigneur. chacun avec les dons qu'il a reçus, ces dons que notre Seigneur nous accorde, eh bien nous désirons les mettre à votre service. Alors je termine mon témoignage parce que j'espère que je ne vous décevrai pas, mais nous sommes tous tellement décevants. Mais je termine mon témoignage par une anecdote. Hier, nous étions invités par des amis chrétiens. Et ce frère m'a dit ceci. Un jour, il a vu une affiche dans une friterie. Et il était mis quelques mots sur cette affiche. Cette affiche disait ceci. « Si mes frites sont bonnes, allez le dire aux autres. Si elles sont mauvaises, venez me le dire. » Alors que notre Seigneur nous permette d'appliquer la règle d'or qui se trouve en Matthieu chapitre 7, verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. » Voilà mon témoignage. Je cède maintenant la place à ma petite femme. Qui, j'espère, ne me contredira pas parce que je n'ai pas lu son témoignage.
Bonjour à tous aussi. Les meilleurs vœux aux personnes à qui je ne les ai pas souhaités. Mon mari ne l'a pas fait, mais il est très mal élevé. Tout comme mon mari, je crois que je peux dire, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, parce que ma mère s'est convertie quand j'avais 1 an et demi. C'est elle qui s'est chargée de mon éducation chrétienne. Alors, je pourrais dire comme Guy que mon témoignage est assez banal. Mon parcours de vie à l'âge adulte, en tout cas, est lui aussi assez banal. Si je veux me faire connaître à vous, je dois m'arrêter un moment sur la conversion de ma mère, sur ce que j'ai vécu avec elle pendant mon enfance et ma jeunesse, jusqu'à sa mort quand j'avais 25 ans. Je suis vraiment consciente que tout ce que j'ai vécu pendant mon enfance, surtout, a déterminé en grande partie ce que je suis et surtout ce que je veux être dans les années que Dieu me donnera encore à vivre. Au moment où ma mère se convertit, à l'âge de 34 ans, elle a à peu près tout perdu en ce monde. Son couple est en échec depuis longtemps, un commerçant gros qui fait faillite et surtout une santé ruinée. Elle est atteinte d'une maladie chronique et évolutive, elle est déjà paralysée et souffre énormément. Alors, connaissant la maladie de ma mère, des clients chrétiens proposent la visite de leur pasteur. Et lors de sa visite, dans la conversation, le pasteur lit Jean 3,16 que presque tout le monde, je pense, nous connaissons, mais je vais quand même le lire, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors l'amour de Dieu pour ma mère est une révélation. Dieu a tant aimé le monde, moi je fais partie du monde, donc Dieu m'aime moi comme je suis, Dieu m'aime. Et cette certitude de l'amour de Dieu pour elle va la remplir d'une joie qui ne la quittera plus. J'ai donc grandi à côté d'une mère souvent malade, en tout cas, gravement handicapée physiquement, et dans le meilleur des cas, se déplaçant en chaise roulante. Malgré son handicap, elle a gardé tout au long de son existence son premier amour pour Dieu. J'ai vu sa paix, sa confiance en Dieu. J'ai vu par-dessus tout sa gaieté, parfois entrecoupée de larmes, bien entendu, mais une gaieté qu'il n'a jamais quittée. Deux jours avant sa mort, nous avions encore des fous rires toutes les deux. Je crois que je peux dire que, comme il est dit dans Néhémie, la joie de l'Éternel a été sa force. Alors j'ai pu à ses côtés apprendre à connaître le Seigneur, j'ai pu comprendre combien Dieu m'aimait. Et je ne peux pas vous dire à quel moment précis je me suis convertie. Ce que je peux vous dire, c'est que toute petite, alors avec ce que je pouvais comprendre à ce moment-là, vers 4-5 ans, j'ai donné mon cœur à Jésus. Je lui ai demandé de venir habiter dans mon cœur. Et puis en grandissant, j'ai appris à lire, à méditer sa parole. J'ai appris à lui obéir du mieux que je pouvais. Et pendant mon enfance, particulièrement après le divorce de mes parents quand j'avais 12 ans, nous avons connu, ma mère et moi, des circonstances difficiles, précaires souvent, des tempêtes, je dirais même des situations vraiment à vie humaine, tout à fait désespérées, mais Dieu nous en a toujours délivrés et il est intervenu bien au-delà de ce que nous avions pensé, imaginé. Notre pasteur de l'époque nous avait dit « Dieu se sert souvent des circonstances les plus désespérées. Quand il n'y a plus moyen d'avoir d'appui nulle part, c'est là qu'il intervient magistralement avec sa richesse. » Et c'est ce qu'il a fait pour nous. Alors nous fréquentions à ce moment-là l'église pentecôtiste de Dampremis près de Charleroi. À l'âge de 13 ans, c'est dans cette communauté que je suis passée par les eaux du baptême. C'est là que j'ai pu réaffirmer que Jésus était mon sauveur. C'est là que je lui ai demandé d'être le Seigneur de ma vie. Bien sûr, au fil des années, j'ai dû souvent redire cet engagement, hein, bien sûr. Et pendant toute ma jeunesse, nous avons, ma mère et moi, médité. Ensemble, nous avons pu aussi échanger de nombreuses vérités spirituelles, expérimenter ensemble la présence et le soutien quotidien de notre Seigneur. Je peux donc dire que ma mère, dans sa chaise roulante, m'a beaucoup appris. Et là, je ne résiste pas à la tentation de dire à mes frères et mes sœurs, avancés en âge ou gravement malades, ou vous qui passez peut-être votre journée en chaise roulante, ne croyez pas ce que le monde vous dit, vous n'êtes pas inutile. Dans la main du Maître, votre vie n'est pas inutile. Vous avez beaucoup à nous apporter. Donc j'ai ainsi cheminé pendant ma jeunesse et je suis consciente, tout comme mon mari, d'avoir été protégée de bien des souillures du monde. Alors quelques mois après le décès de ma mère, en 76, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Et donc nous sommes mariés, comme il l'a dit, en décembre 77. C'est ainsi que nous sommes supporters l'un de l'autre depuis 40 ans. Alors mon mari m'a bien recommandé de ne pas dire « nous nous supportons depuis 40 ans ». Donc je répète, hein, haut et fort, nous sommes bien supporters l'un de l'autre depuis 40 ans. Comme Guy vous l'a dit, nous avons connu ensuite une période de somnolence spirituelle. Je dirais en ce qui me concerne que j'ai laissé ce que la Bible appelle les ronces, les épines, les soucis du travail envahir ma vie. Et toutes ces ronces ont étouffé partiellement, en tout cas, ma vie spirituelle. Sans entrer dans les détails, je dirais, pour préciser ceci, j'étais professeur et à mes yeux, mon travail n'était jamais assez bien fait. Personne ne me reprochait quoi que ce soit, ne me demandait de faire ce que j'ai fait, mais je travaillais la nuit, le jour, je préparais vite les repas, etc. Et puis je recommençais, je dormais quelques heures, jusqu'au moment, évidemment, où j'ai plongé dans une dépression nerveuse magistrale, ce qu'on appellerait un burn-out aujourd'hui. Et en somme, malgré tout ce que Dieu avait déjà fait pour moi, ben, j'avais oublié de lui faire confiance dans tous les domaines de ma vie. Il y a des domaines où ce n'était pas difficile pour moi, mais là, c'était une victoire que je devais prendre moi-même. Pendant des années, je ne l'ai pas prise. Et ma vie spirituelle était chétive, je portais peu de fruits à la gloire de Dieu. Même si j'aimais aller à l'église, lire ma Bible, j'avais oublié de grandir spirituellement moi-même. Et j'avais surtout oublié de lui faire entièrement confiance. Et là, je voudrais ajouter quelque chose que j'ai hésité à dire, mais je vais le dire quand même, c'est que j'ai pensé que dans mon témoignage, il faut que je rende pardon à mes deux filles. Anne-Catherine qui est là, Caro, ben j'espère qu'elle lira ou qu'elle entendra le message, parce que je n'ai même pas apporté ce que ma mère m'avait apporté, je ne leur ai pas montré la vie abondante que le Seigneur pouvait donner en réalité, qu'il en réserve pour nous. Malgré tout, je les remercie pour l'amour qu'elles ont donné à leur maman, même dans les moments houleux. Et alors, il y a une autre personne que je dois remercier, bien entendu. Et ça, mon témoignage ne serait pas complet si je ne le faisais pas. C'est bien sûr mon mari. Je le remercie pour sa patience, pour son amour. Ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui vit une profonde dépression pendant des années. Son amour, sa patience, sa fidélité. Voilà, je voulais dire ça. c'est fait. Alors, bon, pour ceux qui suivent, donc ça s'est passé, je vais dire, il y a une vingtaine d'années. Ensuite, mon mari vous a décrit notre parcours dans les églises de Serein, de Blegny et les raisons pour lesquelles nous les avons quittées. C'est ainsi que nous avons décidé, fin août 2015, comme Guy vous l'a dit, de chercher une assemblée fidèle, un enseignement qui nous tire vers le haut, une nourriture spirituelle solide. Alors, comme Guy vous l'a dit aussi, c'est en écoutant quelques messages de notre pasteur sur Internet que nous avons décidé de vous rejoindre. Il y aura maintenant bientôt 2 ans et demi. Nous avons reçu un accueil chaleureux. Nous vous en remercions encore. Je m'associe à mon mari pour vous en remercier. Ensuite, semaine après semaine, nous avons reçu la nourriture dont nous avions besoin. Personnellement, après quelques remises en question, quelques messages, des échanges, que ce soit avec Jacques, même avec des personnes ici dont les témoignages m'ont vraiment interpellée. J'ai compris à quel point ma foi était défaillante et ma relation avec Dieu bien faible. Maintenant, je réalise que si je lui fais pleinement confiance, c'est dans les moindres détails de ma vie, à chaque pas, je lui obéis. J'obéis à sa volonté, dans les petites choses de la vie, de tous les jours. En restant unie à lui, alors je pourrai connaître la vie abondante qu'il promet dans sa parole. Un jour, notre pasteur a dit à l'étude biblique, il ne suffit pas d'écrire une promesse, il faut se l'approprier par la foi. Et là, je pourrais dire qu'il y a certainement, en tout cas, trois versets bibliques, trois promesses que je voudrais m'approprier par la foi, non seulement pour 2018, mais pour toutes, pour toutes les années qui suivront. La première, c'est ce que Jésus dit en Jean 10:10, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. » Cette promesse-là, effectivement, je me l'approprie. Et une deuxième promesse, un deuxième verset, c'est ce que Paul dit aux Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cette promesse aussi, je me l'approprie par la foi. Je me remercie d'avance pour ce qu'il fera encore dans ma vie, ce qu'il fera encore en moi. Et la troisième, je suis convaincue aussi que je suis son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que je les accomplisse. Que je les accomplisse dans ma famille, dans mon entourage, mon voisinage et bien sûr parmi vous. À ce propos, tout comme mon mari, j'ai d'abord pensé cheminer simplement à côté de mes frères et sœurs de Glen, en apprenant à les connaître toujours mieux, à leur apporter l'amour dont je pouvais être capable. Finalement, c'est dans un souci d'intégration plus réelle à cette famille spirituelle qui est devenue très proche, que j'ai moi aussi demandé à être officiellement membre de votre communauté. Alors, je voudrais conclure là par un quatrième verset qui me tient fort à cœur et que je voudrais réaliser là où Dieu m'a placé, quelles que soient les œuvres bonnes que notre Seigneur a préparées pour moi. Et ce verset, c'est le suivant. Efforçons-nous de maintenir l'unité que donne l'Esprit par la paix qui nous lie les uns aux autres. Efforçons-nous ensemble dans l'année qui vient et dans toutes les autres de maintenir l'unité par la paix, sa paix, qui nous lie les uns aux autres. Alors voilà, je termine et en pensant à ce verset, j'ai demandé à notre pasteur s'il était possible de chanter un chant que j'aime beaucoup et qui me semble bien exprimer l'état d'esprit dans lequel nous voulons marcher à vos côtés. Et c'est le chant « Béni soit le lien qui nous unit en Christ ».
On va quand même prier pour vous, hein.
Oui.
Ah.
Ah. Bon, il y en a qu'on a plus envie que d'autres, mais bon... Ce ne sera pas pareil. Hein?
Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, d'avoir conduit Élie et Marie-France, Seigneur, dans notre Église. Merci, Seigneur, qu'ils puissent mettre leurs dons, Seigneur, au service, Seigneur, des frères et des sœurs en Christ, afin que ton corps, Seigneur, puisse grandir et aussi, Seigneur, se développer. Seigneur, merci pour leur témoignage. Encore une fois, c'est vrai que peu importe que nos vies soient banales ou qu'elles soient explosives, Seigneur, nous avons quand même besoin de te rencontrer pour que tu nous transformes, pour que tu nous changes et que tu nous amènes à te ressembler. Seigneur, bénis-les, bénis leurs deux enfants aussi, leurs petits-enfants. Et Seigneur, pour le temps qu'ils seront avec nous, Seigneur, bien que tu puisses te glorifier à travers eux et que nous puissions aussi les soutenir dans la prière. Et c'est en Jésus-Christ que nous te le demandons. Et le peuple de Dieu dit
Amen.
Amen.